Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, une après-midi et une nuit à l'arrêt sur l'autoroute. L'A7 coupée pendant des heures à cause d'un accident, immense pagaille du côté de Valence et sur Froide, car des produits toxiques se sont déversés sur la chaussée. Maigre repas pour les résidents, grosse rémunération pour les dirigeants. Nouvelle révélation ce matin sur le système Orpea, détail édifiant dans un instant. Alors c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On attend toujours la nomination du premier gouvernement Borne. On commence à savoir qui va rester et qui va partir. Et puis avec vous Nicolas, présidentiel, gouvernement, législative, le regard d'un historien sur cette longue séquence politique.
Oui, Patrick Boucheron dans le Grand Entretien, il publie « Nous sommes ici, nous rêvons d'ailleurs ». C'est aux éditions Verdier. Amis auditeurs, appelez-nous 01 45 24 7000. Le standard est ouvert, il vous attend.
Valourec et 250 postes supprimés dans les Hauts-de-France, colère depuis hier, on va l'entendre dans ce journal aussi. La guerre en Ukraine et l'île aux serpents, l'histoire d'un caillou disputé en mer Noire. Cannes et un Brokeback Mountain à la sauce italo-belge en compétition hier soir. Et puis Rafael Nadal à Roland-Garros, le maître s'y est entraîné hier, mais disputera-t-il le tournoi à partir de dimanche? Mystère.
France Inter.
Dans le genre aléa sur la route, en voici un qui a totalement perturbé l'une des autoroutes les plus empruntées de France. L'A7 fermée depuis hier après-midi entre Valence et Chasse-sur-Rhône. Après l'accident d'un poids lourd qui transportait des matières dangereuses, les opérations de secours ont été très longues, Noémie Philippot.
Le choc a provoqué une fuite dans la citerne du camion, à l'intérieur des produits toxiques et inflammables qui s'écoulent donc goutte à goutte sur l'autoroute. Rapidement, les secours et les forces de l'ordre mettent en place un périmètre de sécurité. Il couvre une zone d'1,5 km de rayon autour de l'accident, ce qui impose la coupure dans les deux sens de l'autoroute. Mais ce périmètre couvre aussi la zone commerciale de Chasse-sur-Rhône et plusieurs ensembles d'habitations. C'est un élément central pour expliquer la durée de l'intervention. Avant de transvaser les produits dangereux de la citerne accidentée vers une autre, il faut évacuer tout ce périmètre, notamment les automobilistes coincés dans des kilomètres d'embouteillage. Ils ont dû faire demi-tour et rouler à contresens sur l'autoroute vers des portails de service encadrés par les forces de l'ordre. Cette évacuation était encore en cours en début de soirée. Elle a donc dû se poursuivre dans la nuit avant la prise en charge des produits dangereux.
Noémie Philippot, France Bleu Isère. Depuis 7h ce matin, l'autoroute a rouvert progressivement dans le sens nord-sud. Mais les heures passées bloquées dans sa voiture ont paru interminables à cette habitante de l'Isère qui était partie de Lyon à 15h hier.
C'était la catastrophe. Plus d'essence dans ma voiture. Juste un soleil de plomb, 42 dans la voiture, donc c'était l'horreur. Et en fait, on nous a donné des petites bouteilles d'eau au bout de 6 heures d'attente. Hein. Et tout le monde attendait, hein. On n'avait rien d'autre à faire. Enfin, moi, je suis une adulte, quoi. J'ai vu des enfants, j'ai vu des animaux. On a été informés grâce à la radio, en fait, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui passait. Alors, des hélicoptères qui passaient au-dessus.
D'accord.
J'ai pas eu personne qui est venu me parler, non.
Voilà, et la circulation va rester partiellement coupée au moins jusqu'à 9h. Et ensuite, le maire de Chasse-sur-Rhône prévient tous les gens qui sont dans le secteur vont devoir anticiper leur déplacement parce qu'il reste énormément de camions qui sont bloqués.
France Inter, il est 8h04. 75 grammes de viande, 8 grammes de biscottes concassées, 12 grammes de crème liquide.
La recette du bœuf mixé façon Orpea, racontée par Le Monde au moment du scandale. Le rationnement alimentaire, une autre des maltraitances subies par les résidents dans les EHPAD du groupe. 4,20 € par jour dépensés pour les nourrir. Et nous revenons ce matin sur le système Orpea avec les révélations de la cellule investigation de Radio France. Bonjour Laetitia Cherel.
Bonjour Florence.
Vous avez enquêté sur les 3 dirigeants de la filiale chargée des achats alimentaires du groupe. Elle est basée en Suisse. Et le moins que l'on puisse dire, Laetitia, c'est que ces 3 Français ont bénéficié de très belles rémunérations.
Effectivement, ces 3 hauts dirigeants avaient un statut assez particulier. Ils étaient à la fois employés au siège d'Orpea, à Puteaux, près de Paris, mais en même temps, ils étaient sous contrat avec cette filiale suisse pour un tiers-temps, avec des conditions salariales, elles aussi, assez étonnantes. 2 d'entre eux ont touché 143 000 euros par an, auquel s'est ajouté un bonus de la même somme, soit encore 143 000 euros, et ce bonus pouvait, en cas d'année exceptionnelle, être illimité. Autrement dit, pour un temps de travail à tiers-temps, le salaire de ces cadres a atteint jusqu'à 400 000 euros bruts par an. En les cumulant, nous avons calculé qu'on arrive à l'équivalent de 7 ans de budget nourriture pour un EHPAD de 80 pensionnaires.
Alors, un tiers-temps en Suisse pour des hauts dirigeants du siège, Laetitia, ça semble lourd comme emploi du temps.
Eh bien, apparemment non. Plusieurs salariés en Suisse nous ont expliqué qu'ils ne les avaient quasiment pas vus entre 2017 et fin 2020. À cela s'ajoutent des soupçons de surfacturation tels qu'une étude de satisfaction facturée 300 000 euros en 2017 à un fournisseur.
Laetitia Chérel du service investigation de Radio France, merci. Vos révélations sont à lire en détail sur franceinter.fr.
8h05, Emmanuel Macron, maître des horloges et du suspense.
De l'art de dilater le temps avant d'annoncer le gouvernement. Aujourd'hui ou demain, le casting de l'équipe Borne se met en place et il faut s'attendre à du changement à la tête des ministères les plus importants dans l'ordre protocolaire, Simon Le Baron, ce qu'on appelle les postes régaliens.
Emmanuel Macron s'est sérieusement posé la question. En pleine guerre en Ukraine, faut-il prolonger Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères et Florence Parly aux armées? Le menhir breton, après 10 ans sans interruption au gouvernement, et sa collègue, qui aura fait l'intégralité du premier quinquennat Macron, devrait finalement passer la main. Lui était l'une des plus belles prises médiatiques du premier mandat. Éric Dupond-Moretti sera-t-il conservé comme garde des Sceaux? Beaucoup autour du président jugent que la menace d'un procès requis contre lui pour prise illégale d'un intérêt tue définitivement le suspense. Seul Gérald Darmanin, dans les pronostics qui enflamment les messageries macronistes, est donné comme pouvant rester à son poste place Beauvau, même si le ministre de l'Intérieur se verrait bien aussi à la tête d'un grand portefeuille social. Question profil, Emmanuel Macron privilégie en tout cas la loyauté, selon plusieurs conseillers. La guerre de succession va commencer très vite. L'enjeu, pense-t-il, est de trouver des ministres suffisamment solides pour faire bloc autour du président.
Et qui pour remplacer Bruno Le maire à Bercy, poste clé dans un gouvernement en première ligne face aux plans sociaux. Hier, Vallourec, qui fabrique des tubes sans soudure, a annoncé la suppression de 250 postes dans les Hauts-de-France. L'usine de Saint-Saulve va fermer avec ses 104 salariés. Elle en comptait 1200 il y a 20 ans. Mais depuis, le groupe a décidé de transférer son activité au Brésil, malgré les investissements de l'État, ce qui met le maire de Saint-Saulve très en colère.
C'est un exercice annoncé, tout simplement. Ça fait des années que ça dure. On passe pas de 1200 salariés à 104, sans un projet de déconstruction annoncé, travaillé, et derrière une injection de fonds publics qui est juste nauséabonde. Que les fonds publics soient arrivés là, heureusement, parce que ça a permis d'aller quand même jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant il faut rendre des comptes. Quand on déconstruit et que c'est programmé et qu'on a bénéficié de fonds publics, quand je dis fonds publics, investissement dans l'entreprise à travers la BPI, et aussi quand vous en êtes à 5 PSE, demain 6, il y a évidemment des fonds qui sont amenés par l'entreprise dans le PSE, mais il y a aussi les fonds publics qui servent aussi avec Pôle emploi, avec tout ce que vous voulez amorcer comme pompe pour essayer de travailler à recaser les gens. À un moment donné, voilà, il doit y avoir des contreparties. Parce que l'activité, elle, va continuer au Brésil. Donc aujourd'hui, les fonds publics, j'estime qu'ils sont partis ou au Brésil. Voilà.
Yves Dussart, maire de Saint-Saulve, au micro de Maxime Debs, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, réclame lui aussi des explications à l'État en tant qu'actionnaire via la Banque publique d'investissement. La moitié des réacteurs nucléaires à l'arrêt cette semaine, maintenant c'est corrosion des tuyauteries. Résultat, EDF annonce une baisse attendue de 18 milliards d'euros sur son bénéfice cette année. Pour la Société Générale, c'est la guerre en Ukraine qui va se chiffrer en milliards d'euros. La banque vient de finaliser la vente à perte de ses filiales en Russie. 3 milliards de trous dans les résultats du groupe. Et dans cette guerre, sur le terrain, il est un endroit minuscule et âprement discuté entre l'Ukraine et la Russie. C'est l'île aux serpents, un caillou sur la mer Noire. Reportage signé à Agathe Mahué.
C'est un minuscule bout de terre, 500 mètres sur 600 à peine. L'île aux serpents est stratégique depuis longtemps parce que dotée de sous-sols riches en hydrocarbures et surtout positionnée à une centaine de kilomètres d'Odessa, un site militaire idéal aux yeux de Moscou, explique Natalia Oumeniouk, qui représente le commandement opérationnel du sud de l'Ukraine.
Les Russes ont voulu conquérir l'île pour plusieurs raisons stratégiques. Ils voulaient y installer leur défense antiaérienne et puis un système de canons mobiles capable de frapper non seulement Odessa mais tout le territoire de l'Ukraine.
L'armée ukrainienne parvient toutefois depuis des semaines à limiter cet assaut russe sur le caillou de la mer Noire, notamment grâce au Bayraktar, ce drone turc devenu ici une star, au point qu'une chanson lui est dédiée. Le drone de combat a largement affaibli les intentions russes en coulant notamment plusieurs de ses navires, des patrouilleurs. L'île aux serpents, pour l'heure, reste aux mains des troupes troupes de Poutine, mais elles y sont en difficulté. Et la représentante de l'armée ukrainienne ajoute : on leur réserve à notre tour quelques surprises.
Agathe Mahuet et Arthur Gerbeau, envoyés spéciaux de France Inter en Ukraine. Un essai nucléaire en préparation en Corée du Nord à la veille de la visite de Joe Biden en Corée du Sud. Coup d'éclat de Kim Jong-un révélé par un député sud-coréen confirmant les craintes des services de renseignements américains. Les États-Unis qui tentent de résoudre leur crise interne du moment, la pénurie de lait infantile qu'il faut faire venir de l'étranger pour remplir les rayons. Joe Biden annonce donc la mise en place d'un pont aérien et impose aux producteurs des ingrédients nécessaires de livrer en priorité les fabricants de lait pour bébés.
En Chine, 8h10, la crise du Covid, Florence, est en train de sérieusement percuter l'économie.
Avec une conséquence à laquelle le pays n'est pas habitué, c'est la montée du chômage. À cause des restrictions sanitaires, Sébastien Berriot, de nombreux Chinois sont en train de perdre leur travail.
Après de longues semaines de restrictions sanitaires très strictes, rien d'étonnant lorsque le taux de chômage du mois d'avril est tombé il y a quelques jours en Chine, 6,1%, tout proche du record de février 2020 au plus fort de l'épidémie. Empêchés de travailler, les entreprises licencient. Comme ici à Shenzhen, cet ouvrier a perdu son travail dans une usine de GPS et il est loin d'être le seul.
J'ai l'impression que cette année ressemble à 2008, au moment de la crise financière. Le 30 avril, le patron a renvoyé presque 30 employés dans les ateliers qui faisaient travailler au total 80 personnes. Avec la situation sanitaire, il y a très peu de commandes. Alors l'usine n'a pas besoin de tous ses employés.
Désemparés, beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas d'autre choix que de licencier. C'est le cas de cet homme d'affaires qui possède plusieurs salles de cinéma dans le sud de la Chine.
50% des salles de cinéma sont fermées en Chine. Comment je vais pouvoir nourrir mes employés dans les 10 cinémas où j'ai investi? En temps normal, il y avait une vingtaine d'employés dans chaque salle. Désormais, il n'en reste que quelques-uns par salle de cinéma.
Avec le risque de troubles sociaux, la montée du chômage est surveillée de près par le régime communiste, d'autant que les chiffres officiels masquent une partie de la réalité. Ils ne comptabilisent pas les travailleurs migrants qui sont près de 130 millions en Chine. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
En Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, au Canada, c'est l'infection qui interroge en ce moment. Des dizaines de cas de variole du singe ont été détectés ces derniers jours chez des patients. La maladie sexuellement transmissible notamment n'était jusqu'ici connue qu'en Afrique de l'Ouest. Elle peut mener à l'hôpital, mais elle se guérit d'elle-même, elle n'est pas mortelle. Un pilote de chasse nommé Tom Cruise, c'était le retour de Top Gun hier à Cannes, un dissident russe pour la première fois sur le tapis rouge, Kirill Serebrennikov et la femme de Tchaïkovski en compétition au festival officiel, au festival, doublé d'un film belge qui a marqué les esprits, Alexis de Meyer, Les Huit Montagnes, une histoire d'amitié en haute altitude.
Pietro, le citadin, et Bruno, le fermier en herbe, ont 10 ans quand ils se rencontrent, à l'été 84, dans les montagnes du Val d'Aoste. Ils seront amis pour la vie. Bien que totalement platonique, cette relation entre deux cow-boys des temps modernes s'inspire de Brokeback Mountain, selon la cinéaste belge Charlotte van der Mirsch.
Il y a une grande tendresse dans cette amitié. Parfois, ils n'ont pas les mots pour s'exprimer, mais ils se comprennent quand même. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. On a tous avec nos meilleurs amis. Comment être amis durant nos vies? Ça demande un grand effort et parfois un peu de douleur aussi.
Ciao Bruno. Ciao Pietro.
Adapté du roman de Paolo Cognetti, prix Médicis 2017, Les Huit Montagnes se déploie sur 3 décennies, du Népal aux Alpes italiennes. Un tournage particulièrement marquant pour le co-réalisateur Félix Van Roningen.
Faire un film, pour moi, c'est toujours un peu un voyage, mais avec ce film, on l'a fait vraiment, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait le faire en Italie. Faire l'effort d'aller là-bas, d'apprendre la langue, découvrir tout un monde d'acteurs. On est incroyablement heureux de pouvoir avoir fait ça.
Le scénario tombe parfois dans la facilité et souffre de quelques longueurs, mais cette immersion dans la nature sauvage, impeccablement filmée, est saisissante. Ouais.
Les Huit Montagnes, un film belge en compétition officielle hier à Cannes. Enfin, il est là. Il a foulé la terre battue de Roland Garros à 3 jours du premier tour. Il s'y est même entraîné hier soir. Raphaël Nadal, maître incontesté du tournoi avec ses 13 victoires, ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi, puisque Nadal a énormément souffert au tournoi de Rome la semaine dernière. Sa maladie dégénérative du pied s'est réveillée. Qu'on se rassure, au moins temporairement, il n'en paraissait rien à l'entraînement hier devant un public toujours conquis, Fabrice Abgral.
Il est arrivé sur le central à 18h sous les acclamations des spectateurs venus assister à l'entraînement de la légende. Rafael Nadal s'est entraîné durant 2 heures, un premier galop d'essai sur la terre battue parisienne sous les yeux admiratifs d'Augustin.
Moi c'est la première fois que je viens à Roland-Garros, ça fait 15 ans que je le regarde jouer là. C'est impressionnant, ça fait des belles émotions, ça fait plaisir à voir, j'en ai des frissons là. C'est une icône, 13 victoires ici, mais pour moi c'est le plus grand joueur.
Rafael Nadal, l'homme aux 21 titres majeurs, venu tester son pied gauche qui le fait souffrir depuis une semaine. Hier, il s'est entraîné normalement sans ressentir apparemment la moindre gêne. Les spectateurs sont plus ou moins rassurés.
Non, il est courageux, il va y arriver.
Il s'entraîne bien. J'ai parlé avec quelqu'un de l'équipe et ils m'ont dit qu'il va jouer. Mais je sais pas, c'est un peu secret.
Heureusement que maintenant il s'entraîne et que bah là, on espère qu'il va aller chercher le tournoi.
Tout d'abord, avant le titre, faut d'abord la santé. En tout cas, il est ici chez lui, il est sur sa terre.
Rafael Nadal s'entraînera encore aujourd'hui, demain puis samedi, et c'est là qu'il prendra la décision de participer ou non à Roland-Garros, où il visera un 14e titre.
Voilà, et c'est à 19h qu'aura lieu ce soir le tirage au sort du premier tour du tournoi à partir de dimanche. On précise qu'aucun Français n'est tête de série cette année, ni dans le tableau masculin, ni dans le tableau féminin.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Marie-Pierre, ça reste orageux sur une large moitié nord.
Et oui Nicolas, en fait on se retrouve avec la salve orageuse d'hier qui s'échappe par les Ardennes et une deuxième qui s'est développée de l'est de la Bretagne à la Vendée en remontant vers la Normandie. Et en début d'après-midi, cet axe orageux va glisser tout doucement vers les Hauts-de-France, la région parisienne, en descendant vers le centre à la région de Clermont-Ferrand et ça gagnera la Champagne ainsi que l'Auvergne. Puis en journée, l'Alsace en descendant jusqu'aux Alpes et sur les autres régions du nord, eh bien le ciel sera changeant avec quand même une averse orageuse possible, voire même un coup de tonnerre.
Et sur la moitié sud, ça va rester ensoleillé.
Oui, avec des petites nuances quand même ce matin, car on a pas mal de grisailles du Pays Basque jusqu'aux Landes, mais aussi sur le golfe du Lion, on a un bon vent d'autan qui ramène des entrées maritimes qui vont vite se dissiper. Et puis on a aussi un bon vent de sud dans la vallée du Rhône. Alors côté du mercure, ce matin, c'est très élevé hein, pour la saison. 21 à Paris, soit 10 degrés au-dessus des normales. 21 à Lyon, contraste avec les 9 à Brest. Et en journée, ça va baisser de 3 à 5 degrés au nord. Ailleurs, ça restera stationnaire. Vous aurez 17 à Cherbourg, 21 à Rouen, 24 à Lille comme à Biarritz, comptez 26 à Paris, 29 à Jarnac, encore 30 à Metz comme à Marseille, 32 à Strasbourg et à Villefranche-sur-Saône, 33 à Clermont-Ferrand. Et Nicolas, ce week-end, ça va chauffer dans le sud-ouest, on pourrait même atteindre les 36-37.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h18.